Bonjour, aujourd'hui spéciale dédicace de cet épisode pour les magnifiques femmes qu'on a eu le plaisir de croiser lors de nos parcours respectifs. Aujourd'hui j'aimerais en citer quelques-unes, mesdemoiselles, mesdames, afin de vous rendre hommage individuellement et pour toutes les forces que vous avez toutes en commun. De Bruxelles à Guangzhou, vous aviez toutes le même regard. Annabelle, Anne-Marie, Myriam, je souris, mais j'avais envie de râler aujourd'hui. Samira, Jo, Rabia, Afida, Nadine. Je porte trois fois le poids de mes responsabilités. Shamia, Lubna, Sana, Salima, Ingson. On laisse ces projets de côté et on va les faire plaisir aux autres. Aurélie, Nadia, Dalila, Jennifer, Audrey. Je travaille en force sur mes peurs et je ne lâche rien. Rachida, Sophia, Anna. J'ai besoin de soutien, ça me permettrait de gagner du temps. Anan, Badia, Asia, Nawal, Rizlen. On fait la route, on ne calcule plus. Ben c'est vrai, quand on aime, on ne compte pas. Sana, Safa, Jamila, Fatema Zora. Je reste digne et je garde le sourire. Ben de toute façon, personne n'avait envie d'entendre mes larmes. Naïd, Noujoud, Noelia, Amal, Mouna, Mei. Il y a un problème ? Quel problème ? Ben, moi, j'ai déjà trouvé la solution. Mounia, Amina, Zineb, Ilham, Fadwa, Caroline, Nathalie. Je reste douce. J'avais envie d'être dure pourtant. Nabila, Zora, Nora, Bouchra, Stéphanie. Je préfère ne pas dire ce que je pense. C'est mieux pour vous. Toutes ces forces, vous les avez toutes et vous vous en rendez même pas compte. Si vous voulez réécouter l'audio depuis le début, faites-le maintenant. Ça va peut-être vous aider à réaliser ce que vous valez réellement. C'est vrai, je vous ai souvent vue motivée, pleine d'idées, bouillonnante, de bonne volonté. Mais j'ai aussi souvent vu, ressenti, dans vos regards des blocages, des peurs, beaucoup de doutes, et souvent des hésitations. Et pourtant, chaque jour, vous vous levez le matin et vous vous habillez, alors que vous avez envie de rester au lit. Chaque jour, vous vous maquillez et vous sortez dire au monde « tout va bien ». Chaque jour, vous ouvrez les yeux sur ceux qui ont besoin de vous, alors que vous avez juste envie de fermer les yeux sur tout et tout oublier. Chaque jour, vous ouvrez votre cœur, alors qu'il est rempli. Chaque jour, vous tendez la main, alors que vos épaules sont lourdes. Chaque jour, vous apportez votre grand sourire, alors que vous aviez envie juste de déposer vos larmes sur la table. Mes belles, on vous a souvent menti, et on vous a fait croire que tout ça, c'était normal. On vous a dit que c'était normal d'être forte. On vous a dit que c'était normal de se justifier pour prendre sa place. On vous a dit que c'était normal d'être courageuse. On vous a dit que c'est normal de pouvoir tout faire dans sa vie professionnelle comme dans sa vie personnelle. On vous a fait croire que c'était normal d'être parfaite. Et on vous a dit que c'était normal de ne jamais abandonner sa famille ni ses enfants. Mensonge. Mensonge. Non, tout ça, c'est pas normal. C'est pas normal d'être forte. C'est pas normal de sourire, de tenir le coup. C'est pas normal d'être debout quand en fait on est à genoux. Et c'est pas normal de chercher toujours à protéger sa propre famille. Oui et non, ce n'est pas normal. Mais qu'est-ce que c'est beau? C'est incroyable. C'est exceptionnel. Toute cette force, ça fait peur à ceux qui sont autour de vous. C'est pas normal. Et c'est pour ça que ça donne des frissons. Toute cette force et cette douceur en même temps. Et ça, personne ne le comprend. Oui, mesdemoiselles, mesdames, vous êtes des princesses au pouvoir magique. Et si un jour, dans votre vie professionnelle ou personnelle, on vous quitte, on vous abandonne, c'est que vous étiez trop forte. Car on préfère souvent rester avec les plus faibles que soi. Souriez, mes belles. Continuez à être des guerrières comme vos mères et glamour comme vos sœurs. C'est comme ça que vous êtes parfaites. Je terminerai cet épisode par un petit poème anonyme mais qui soutient tellement d'idées et d'émotions. Oui, mes belles, nous sommes toutes des princesses et les princesses ne pleurent pas. Donc quand ton cœur est triste, va de l'avant. Quand il semble que tu vas tomber, aime-toi, estime-toi parce que tu vaux de l'or. Et si un jour quelqu'un te dit « Tu n'es pas celle dont j'ai besoin », réponds non, parce que je sais que je suis beaucoup plus que ce que tu cherchais. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Farah Vandenhoven. Farah, bonjour.
Bonjour Soraya.
J'espère que tu vas bien.
Je vais bien, merci.
Je peux te tutoyer.
Bien sûr.
Ça ira beaucoup plus vite, ça sera beaucoup plus intime pour notre petite interview. Alors Farah, je vais résumer. C'est une maman de 3 enfants.
Oui.
18, 16 et 4. Mm-hmm. On a 2 Farah. Hein. Voilà, la Farah pragmatique qui fait des petits boulots pour payer ses factures et assumer sa petite famille. Et la Farah ambitieuse qui pratique et étudie le trading depuis à peu près quelques années et qui compte en vivre d'ici 2 ans. C'est juste ?
C'est ça.
D'accord. Ben, ça a l'air d'être bien organisé pour l'instant dans ta vie.
Oh, là maintenant, je suis bien organisée, mais ça n'a pas toujours été comme ça, bien sûr. Hein.
J'imagine.
Donc, j'ai eu des difficultés comme tout le monde.
On va commencer par le début. Hein.
Oui.
La première question que tout le monde va se poser, c'est comment est-ce qu'un prénom comme Farah, à connotation orientale, s'est retrouvé lié à Vandenhoven, qui est du bon blanc-bleu belge. Alors, raconte-nous ça.
Ben, donc, j'ai été ici, on va dire, clandestinement.
Tu es arrivée en Belgique de façon...
clandestine.
Uh-huh.
Voilà, donc c'est une longue histoire.
Ouais.
Il y aura peut-être un livre là-dessus.
Exact. Donc, tu es arrivée de façon clandestine, ta maman.
Voilà, ma maman était mariée avec un Belge. Hein.
D'accord.
Et à la naissance de mon frère, on a décidé ensemble de prendre le nom de mon beau-père.
D'accord, pour un premier petit souci, on va dire, de bien-être, comme ça, les enfants ne se moqueraient pas de toi à l'école avec ton frère.
Voilà.
Ou qu'on évite de vous poser des questions,
voilà.
Je suppose. Ok, ok. Alors, petite enfance normale, tu m'as dit que pour jusque-là, il n'y a rien à signaler.
Non.
La Farah, pragmatique, salariée, et tout se passe bien. Mais un jour, en 2013, il y a une autre Farah qui naît. Hein, une Farah ambitieuse en 2013. Qu'est-ce qui t'est arrivé en 2013?
Eh bien, en 2013, mon premier divorce. Donc, voilà, premier divorce. Et puis aussi, on m'a remercié de mon travail. Hein.
Ok, donc tu perds ta famille, j'ai envie de dire, et ton boulot en 2013.
Ouais.
Et tu te retrouves seule avec...
Avec mes 2 enfants.
Avec 2 enfants, ok. Là, tu démarres à zéro, t'as plus rien.
Voilà, je me pose les bonnes questions et je me remets en question. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai envie d'être et de faire? Et c'est là que j'ai envie d'ouvrir mon propre snack.
D'accord.
Mon propre commerce.
En fait, ce qui t'est un petit peu arrivé, je pense que c'est ce qui arrive souvent, on va dire heureusement, aux gens qui perdent tout. C'est à ce moment-là, quand on n'a plus rien. Donc on n'existe plus via sa famille,
voilà,
son travail, son appartement, ses meubles.
Voilà,
on n'a plus rien, on n'est plus personne.
On ne retrouve plus sa place en fait.
Voilà. Et c'est là en fait où on commence à se demander finalement qui je suis,
qu'est-ce que
je veux de ma vie,
voilà.
Qu'est-ce que je fais là. Et qu'est-ce qui s'est passé donc en 2013? Ça a été, je suppose, pas facile à gérer.
Non, 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 non. Donc, bon, voilà, le divorce,
Le boulot.
le boulot, voilà. Donc, on essaye de reprendre le dessus. Ça prend le temps, mais bon, on essaye toujours. Je vois toujours, toujours le bon côté des choses, hein. Je me dis, ce boulot, c'est quand j'en suis sortie que je me suis dit, ouh, mais quand même, quel soulagement.
Ça, c'est toujours comme
Ça, c'est. Voilà, c'est quand on en sort qu'on voit ce qu'on était en train de subir,
de
en fait.
vivre.
Ouais,
On se
voilà.
rendait pas, on se rend pas compte.
Mais toujours positif, quand je prenais une décision, ben, j'allais pour un autre objectif.
D'accord. Donc tu t'es posé les questions, les bonnes questions.
Les bonnes
Tu
questions.
t'es dit qu'est-ce que je fais?
Qu'est-ce que je
D'accord.
veux surtout?
Qu'est-ce que tu veux? Tu as décidé d'ouvrir un commerce, c'est ça que tu as dit?
Oui.
D'accord. Mais moi, ce que j'ai quand même envie de te demander, c'est le fait de tout quitter comme ça, du jour au lendemain, quel est le sentiment? Donc, c'est une émotion, hein. Quel est vraiment le sentiment qui t'a mis à terre, en fait, finalement, avant que tu te relèves? C'est quoi le déclic que tu as eu?
Le déclic, eh bien, quand je n'avais plus le respect de mes enfants. Ça, c'est le
D'accord.
sentiment de. C'est la pire chose qu'une maman peut ressentir, c'est quand ton enfant ne te donne pas le respect,
L'admiration,
l'admiration qu'on attend et qu'on fait tout pour avoir, en
la
fait. La
reconnaissance.
reconnaissance, juste voilà, le respect, maman, c'est une maman, c'est. Voilà, c'est.
Parce qu'au final, on fait tous
On
ces
fait
rêves et
tout
ces projets pour
ça
eux.
pour les enfants. Et quand j'ai vu que je n'avais plus ma place de maman, de quelque chose une maman, c'est sensible, c'est doux, j'avais plus ma place. Et c'est le déclic qui m'a fait le plus mal au cœur.
L'image qui t'a marqué, tu m'en as parlé, ça
Oui.
m'a touché. L'image à la seconde même où tu t'es dit c'est fini, c'est quand ton fils.
Mon fils, il m'a un jour, bon, je le corrigeais pour une certaine chose et il m'a répondu, il m'a insulté.
Il avait quel âge?
Il avait
11 ans à peu près?
11-13 ans.
On, ouais,
11-13
entre
ans.
11 et 13 ans, ok?
Oui, et donc une insulte et ça m'a choquée parce que la réaction du père a été un sourire. Et là, j'ai vu que ma valeur avait chuté. J'étais dans
T'as eu
les
un
9-8
vertige. Ouais.
et je suis arrivée à zéro. Je me suis
D'accord.
dit, mais non, c'est pas possible.
C'est pas possible
Moi,
que je
je n'éduque
vaux.
pas mes enfants pour qu'ils aient un résultat pareil.
Ah, ok.
Non.
Donc, oui, finalement, c'est ça. Un enfant, c'est aussi comme un projet.
Ah oui.
Tu t'es battu pendant toutes ces années et tu te dis si c'est pour que ça donne ça, il y a
Moi-même,
quelque
sa
chose à
mère, et
refaire.
il me dit
Il
ça.
ne me respecte pas
Qu'est-ce qu'il va faire avec
plus
les autres?
tard. Ah, d'accord.
Non.
Ok, donc ça a été ton
Ça a
déclic.
été mon.
Mon
Ça,
déclic.
ma décision a été à ce moment-là.
D'accord. Donc tu prends pas beaucoup le temps de tomber par terre. Tu m'as dit que ça a été assez
Non.
rapide et t'as vite pensé à ouvrir ton commerce.
Oui, j'ai fait le nécessaire. Il me fallait la gestion. Je l'ai faite. Et directement, j'étais aussi avec une personne qui me motivait. Hein. Bien
D'accord, ouais.
sûr, on a besoin.
On a toujours besoin, ouais,
Quand on
d'être
regarde,
entouré.
voilà, il y a toujours une personne qui. Et il faut ces personnes-là parce que c'est avec eux qu'on va avancer. Et donc j'ai été encouragée à faire tous les. Ça ne s'est pas fait
Ça a pris
directement, hein.
combien de temps
Trois ans. Ça
Ah
a
oui,
pris
voilà, entre
trois
ton
ans.
déclic, entre ton enfant qui
Entre
t'insulte, j'ai envie de dire.
l'ouverture, le divorce et l'ouverture du commerce, ça a pris trois ans.
Ça a pris 3 ans. Mais quand même, ça a été assez rapide au niveau de ton état d'esprit. Parce que tu
Ah
m'as
oui.
dit que t'as pas déprimé longtemps.
Non, non, non. Ça, c'était une chose que j'avais voulu, donc je l'ai assumée.
Il faut quand même rappeler à ceux qui nous écoutent, et c'est ce qui arrive très 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 souvent dans 9 cas sur 10, c'est que le jour où tu as eu ce déclic, c'était pas quelque chose de nouveau au fond de
Non.
toi. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on n'est pas respecté, on n'est pas reconnu depuis très longtemps, sauf que ça s'accumule, c'est ça?
Voilà.
En fait, c'est ce que tu m'avais dit. Tu m'as
En
dit, en fait, c'est
fait,
depuis plus
on
de 10 ans.
supporte en disant
Voilà.
c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, tant que j'ai ça, tant que j'ai ça, tant que j'ai ça, mes enfants sont en bonne santé, ça,
L'école,
ça,
ça se passe
ça.
bien,
Mais une fois que ça touche un point, on dit c'est un point non-retour, on va dire, parce qu'on dit, allez, il a dépassé la limite.
Ouais.
On se dit stop, non, ça
Ça, c'est
va.
ça.
Là,
C'est fini,
j'arrête, ouais.
quoi. Et le fait que tu t'en remettes si vite, c'est quand même un coup de chance. Donc, tu m'as parlé d'une certaine dame. En fait, tu as été quand même assez vite. Tu t'es vite remise sur
Oui,
pied.
donc j'ai eu quand même pas mal une personne que je connais depuis toute petite cette femme est illettrée, donc elle ne sait ni lire.
C'est une voisine du quartier, d'accord.
Et cette dame-là, elle a toujours travaillé, et n'importe quelle situation où elle se trouvait, ouais, elle s'en sortait. Et je l'ai vue, je l'ai vécue avec elle. Donc
d'accord.
C'est une dame que je respectais énormément et que j'ai toujours en mémoire. Et à chaque souci que j'ai, je me dis voilà, si elle était là, qu'est-ce qu'elle aurait fait?
D'accord.
C'est okay. Vraiment quelqu'un que j'admire et franchement son courage, sa volonté.
D'accord.
Tout.
Donc elle arrivait, ce qui m'a marqué quand tu m'as expliqué un petit peu son histoire, tu m'as dit chaque fois qu'elle se retrouvait dans une situation involontaire de sa volonté, indépendante de sa volonté, que ce soit son mari, sa famille ou ses enfants, tu me disais que le soir elle avait l'air très triste et que tous les matins tu la revoyais avec un grand sourire. Elle repartait en disant voilà, maintenant il faut faire une action.
Et même quand je savais qu'elle avait des soucis, peu importe dans quel domaine, elle se retrouvait dans un groupe de femmes et tout, la femme elle faisait rire toute la salle, et si on va regarder derrière, elle était pleine de problèmes. J'ai dit waouh, c'est top.
C'est quand même un mythe qui est assez connu. On dit que les personnes, parmi les personnes les plus tristes ou les plus malheureuses, c'est les clowns. C'est ceux qui font rire les autres parce que justement, ils ont tellement à vouloir cacher qu'ils le protègent par le rire. Tu as eu de la chance d'avoir une personne comme ça?
Oui, franchement, ça a été mon modèle, moi.
Inconsciemment, donc c'est quand même important d'expliquer que inconsciemment, ça se fait inconsciemment. Donc, tu ne l'as pas
prise
de façon consciente comme mentor, mais voilà, chaque fois que la vie t'a mis devant une situation, c'était elle qui te revenait, ouais, en tête. D'accord. C'est beau, parce qu'en fait, on n'a pas tous quelqu'un comme ça dans son entourage, je pense.
Si, on a sûrement, oui, parce que soit on a un grand frère, on a un père, une mère, il y a d'office, il y a quelqu'un sur... Allez, on a du...
Qui nous inspire.
Qui nous inspire, qu'on a une fierté.
D'avoir.
Oui, on se voit dedans, où on veut être comme cette personne. Il y a.
Ça, c'est quand même le premier conseil que tu peux nous donner. Donc déjà pour apprendre à être positif, c'est chercher autour de nous quelle est cette personne qui nous inspire, qui est un modèle.
À qui vous voulez ressembler.
D'accord.
Suivre son chemin, peut-être.
Son chemin. C'est déjà une façon... en psychologie, on dit qu'une des deux façons d'apprendre automatiquement et de façon inconsciente, c'est d'imiter quelqu'un. Donc, ce que tu dis est tout à fait juste, parce qu'en fait, il suffit d'observer alors cette personne qu'on aura choisie dans son entourage, mm-hmm, et ça se passe naturellement, en fait. On se met à imiter cette personne. Comme quand un enfant, il regarde Superman, t'as nos enfants qui se mettent à grimper le mur.
Pour essayer de sauter comme...
Voilà, pour faire comme le modèle. Donc, t'as déprimé vite fait quand même. Ça a été assez rapide.
Ça a été rapide,
voilà.
Très rapide.
Tu t'es remis sur pied.
Parce que c'était ma décision.
Ouais.
Une fois que j'ai pris la décision.
C'était fait. T'es remis sur pied. T'as commencé à préparer cette histoire de commerce. Ça a pris le temps que ça a pris pour que tu l'ouvres, cette boutique.
Ouais.
Il fallait quand même, je suppose, tout le côté financier et tout le côté administratif et tout. Et donc, en 2014, je pense, tu ouvres ton... Non, c'était pas 2014, 2016, pardon. Tu ouvres ton commerce. Donc là, t'étais prête, ça a super bien marché.
Ça n'a pas marché, hein.
Ça aurait été trop beau, hein.
Ça aurait été trop beau.
Ça n'a pas marché.
J'ai tenu le coup un an et demi.
Donc un an et demi.
Mais malheureusement, j'étais pas avec la bonne personne pour.
Alors toi, tu estimes en fait avoir été prête dans cette expérience, parce
moi,
que je rappelle que toi, tu avais passé 9 ans déjà dans un commerce même type.
Depuis l'âge de 20 ans, je suis dans l'alimentation. Et pendant 9 ans, j'ai travaillé dans un traiteur, sandwicherie, boucherie. Donc, j'ai fait vraiment de A à Z dans ce magasin. J'ai fait de A à Z.
Tu gérais déjà en fait un commerce, mais pour quelqu'un d'autre. Et donc, en fait, tu t'es dit, autant le faire pour moi.
Autant le faire pour moi.
D'accord. Donc, normalement... Juste avec tes compétences, ton attitude et ton expérience, ça aurait dû marcher.
Ça aurait dû marcher, malheureusement.
T'as ajouté un ingrédient,
un ingrédient
imprévu.
Qui ne devait pas être là, malheureusement.
Peut-être.
Donc, je n'ai pas pu supporter seule tout ce qu'il y avait à faire.
À gérer, oui, le quotidien, bien sûr, puis les commandes, les fournisseurs et tout ça. Et donc, 2017
2017, faillite.
Je
décide de... faire faillite avant de vraiment m'écrouler. Hein.
Ah ok, donc là, tu as le courage, tu as toi le courage de quitter.
J'ai pris la décision.
Tu as lâché prise, quoi.
Faire, ouais. Ça, parce c'est... qu'à ce moment-là, on voit que ça coule, soit on arrête les dégâts, soit on continue à couler.
Oui, mais c'est super courageux ce que tu as fait, parce qu'il y a très très peu de gens qui arrivent à... Ce que tu as fait, c'est du lâcher prise, parce qu'on résiste, on attend, on s'accroche en espérant des résultats. Et là, ça quand même...
Moi, c'était moi ou le commerce, comme on dirait.
Ah oui.
À certains moments.
Ouais. Donc là, encore une fois, malheureusement, ce que tu m'as dit, c'était « j'ai pas eu le choix, en fait ». C'était moi ou... C'était moi ou rien du tout.
Ouais,
donc là, tu es arrivé encore une fois, malheureusement, à un point de non-retour. Beaucoup de stress.
Oui.
Beaucoup de stress.
Mais une fois que j'ai lâché...
Le commerce. Une fois que tu as pris ta décision, tu m'as dit.
Une fois que j'ai pris la... Et que le papier, il est signé, la faillite, elle est signée.
C'est fou. Tu es soulagée.
C'est un poids qui se retire incroyable.
Mais bon, je suppose que tu t'es sentie légère, mais bon, au niveau financier, ça ne devait
ah
pas
non,
être la gloire.
Oui, bien sûr. Ça, c'est.
T'étais
c'est
en dessous de tout.
J'étais à zéro. J'étais encore plus qu'à zéro.
Ah, mais à zéro, tu étais riche, parce que quand on fait faillite, on est à moins 30, moins 50 000 euros.
J'avais les dettes, mais pour moi, bon, ça, les dettes, à ce moment-là, je n'y réfléchissais même pas. Parce que quand on est à un
ton
certain
mal-être
niveau,
était...
si on veut être vraiment encore plus bas, ouais. On pense à tout ça. Mais là, j'ai. Là, le corps se met à un niveau
il
de
bloque.
Survie.
Ouais.
Donc,
ouais.
C'est comme s'il oublie ça.
Il oublie tout le reste, exactement.
Un moment, pendant un moment. Et heureusement, donc avant cette faillite, j'ai fait la connaissance d'une personne qui m'a fait découvrir le MLM.
Ouais, c'est ça qui t'a fait. Mais attends, avant qu'on passe au MLM, on va d'abord prendre le temps de déprimer, de vivre ses échecs bien comme il faut. Il faut pouvoir les savourer. Donc, tu nous fais une faillite. Une bonne faillite parce que c'est à zéro, donc ça va encore pas trop de dettes, d'accord. Et là, tu nous refais un redivorce.
Un
redivorce. Tu voulais nous cacher
oui,
ça.
Oui.
Donc 2007, tu nous as... Là, t'as pris tous les Césars, là. C'est...
2017, ça
2017,
a été,
pardon.
Oui, le seul beau cadeau que j'ai eu de...
Cette aventure.
Cette aventure, c'est ma petite fille, qui a donc 4 ans aujourd'hui.
D'accord.
Et c'est le seul cadeau que j'ai eu. De cette faillite, de ce deuxième divorce.
Donc 2017, je vais résumer si tu veux bien. Donc 2017, tu nous fais deux divorces, trois enfants, une faillite et une mise à la porte, on va dire,
ouais.
De ton ancien employeur.
Absolument pas.
Ok. Mais pourquoi est-ce que tu t'es mariée si vite? Tu m'avais parlé du syndrome d'alerte à Malibu. T'as voulu sauver quelqu'un.
Sauver.
T'as voulu sauver.
Aider, se rendre utile.
Ouais. Ouais. Je veux en parler parce que c'est ce qui se passe à mon avis, plus de 80% des cas chez les femmes. T'as voulu sauver quelqu'un et t'as pas pris le temps de t'occuper de toi. Ça a été quand même rapide.
C'est ça en fait. Donc, toujours vouloir penser aux autres, c'est pas toujours bien.
C'est pas la priorité en fait, ça doit passer après.
Ouais, en fait, je l'ai découvert, je l'ai compris quand j'ai eu
ces deux faillites,
le deuxième divorce, le mise à la porte.
Donc
travail.
Tu faisais tout le temps les choses pour les autres.
Oui.
Et
en
quand
fait,
tu...
je faisais en pensant que ça allait m'aider, mais non plus pour aider l'autre.
Plus pour aider l'autre. Donc, quand tu t'es mariée en voulant aider cette personne, tu m'avais dit qu'elle avait une addiction, on va pas rentrer dans les détails.
Ouais.
Donc, tu as voulu sauver cette personne.
Oui.
Donc, comme beaucoup de femmes, ne t'inquiète pas, tu as confondu mariage et projet associatif. C'est ça? Donc, en fait, c'est quand on se marie pour les mauvaises raisons, ça... C'est ça, un petit peu?
Oui.
Aujourd'hui, avec le recul...
En fait, on doit voir nos priorités. Quelles sont nos priorités? D'abord, se sauver soi-même avant de vouloir sauver les autres.
Avant
ça, je l'ai compris qu'aujourd'hui.
Aujourd'hui. Mais c'est pas grave parce que j'ai l'impression que tu vis bien tout ça et que tu en tires le...
Oui, j'en tire de bonnes leçons, mais voilà, j'aimerais bien que d'autres ne passent pas par... j'espère grâce à ça que d'autres ne feront pas tout ça, éviteront...
ces erreurs, ben oui.
Ces erreurs.
Donc quand le corps parle et quand on arrive à un point de non-retour, quand on ne s'inquiète plus du tout du reste, on sait qu'on arrive à un point de non-retour, ça veut dire qu'on est en état de survie. Ça c'est quelque chose de général. Donc ça c'est, les gens peuvent savoir que si le corps lâche, c'est qu'on n'est plus capable de supporter le reste. Et deuxième chose, quand on se lance dans un projet, que ce soit un mariage ou un commerce, même un business, il y a beaucoup de gens qui font faillite, c'est comme un divorce, c'est parce qu'on y rentre pour les mauvaises raisons, pour aider l'autre, pour faire plaisir à l'autre. Il veut ouvrir un commerce de fruits et légumes, je vais l'aider. Il veut faire de la barbe à papa, tiens, ça a l'air rigolo.
C'est exactement ça, de mauvaises raisons.
Parce qu'il n'y a pas ce travail, je suppose, tu vas nous en parler après, parce qu'à l'époque, tu n'avais pas fait ce travail d'apprendre à te connaître. Tu ne savais pas qui tu étais, ce que tu voulais de la vie.
Oui, à l'époque. C'est un travail qu'on... Oui, c'est vrai que...
Ça va arriver.
Oui, c'est grâce au MLM que j'ai découvert ça, en fait.
Donc, tu nous fais... Donc, en 2017, je répète, tu as eu tes deux divorces, ta faillite, tu te retrouves seule avec trois enfants, et là, ben, tu as eu un coup de chance, ou en tout cas, ton esprit était suffisamment, je pense, positif pour pouvoir... attirer une bonne nouvelle. Et là, il y a quelqu'un qui vient chez toi au commerce. Donc, tu n'as même pas encore fait faillite.
Tu n'as
pas encore pris cette décision qui a déjà un espèce
de... En fait, étant dans le commerce, je cherchais encore plus de revenus parce que c'était pas, je voulais sauver,
c'était pas suffisant.
Je voulais sauver ce commerce. Donc,
d'accord.
J'ai essayé de faire d'autres choses en plus.
Ouais.
Et donc, j'ai une amie qui m'a parlé du MLM.
Alors, le MLM, c'est du marketing de réseau. Donc, voilà. C'est une façon de vendre des produits.
Peu importe d'où on est.
D'où on est du monde.
De chez soi, du magasin, là où on travaille, on peut faire...
Vendre en ligne à des gens et tout est géré par un système informatique. Donc, c'est vrai que le marketing de réseau a sauvé beaucoup, beaucoup de familles dans le monde.
Il est très accessible.
Et qu'il est très accessible. Et donc, pour toi, ça a été...
Ça a été vraiment une découverte, oui.
La bouffée d'air frais.
C'est grâce à ça et grâce aux personnes qui m'ont fait connaître
ce monde, c'est
un réseau, c'est vraiment un réseau.
C'est le réseau.
Et on voit la même chose, on est dans les mêmes objectifs et on parle de la même chose. Et donc, j'ai eu un rebond. Donc, c'est là aussi,
rapide.
Peut-être, qui m'a aidé à prendre ma décision de faillite.
Ah oui, ok, d'accord. Donc, en fait, c'est aussi cette porte de sortie
qui
t'a dit, ok, tu peux fermer la porte
là,
du commerce.
Là, ici, tu ne vas plus savoir aller plus loin. Donc, soit tu arrêtes les dégâts. Soit tu t'enfonces encore.
Encore plus.
Ça m'a aidé peut-être à prendre ma décision.
Donc ici, ce qu'on peut retenir comme leçon de cette étape-là de ta vie, c'est que le fait que tu cherches et le fait que tu sois constamment à la recherche, le fait que tu aies eu un réseau de personnes de contact, ça t'a apporté les solutions avant même de vivre pleinement, on va dire, le problème que tu vivais.
Exactement.
Donc l'entourage ici t'a aidé encore une fois.
Ça aide.
Et ta démarche, toi, active d'être à la recherche, quoi.
Voilà.
T'as pas pris le temps d'attendre.
D'attendre.
De tomber.
Voilà. J'avais une autre solution.
T'avais déjà une autre solution. Donc le fait de se préparer vite nous permet finalement de pas perdre pied. D'accord.
Voilà.
Et dans le marketing de réseau, ce qui t'a sauvé, tu as eu rapidement alors
l'opportunité de faire des formations,
d'accord.
D'aller voyager. C'est ça que j'ai évité. Je l'ai senti passer une...
Tu as senti la dépression,
dépression
te passer sous
même
le nez
une,
C'était une paralysie.
Une paralysie vraiment très légère, mais je l'ai ressentie, je me suis dit...
Comme une hémiplégie, tu m'as dit, la moitié du visage,
vraiment
du
ici,
corps.
Vraiment ici, au niveau de l'œil.
Des yeux.
Je l'ai sentie et je me suis dit, heureusement que je suis au bon endroit avec des bonnes personnes.
Donc, tu as eu la chance, le courage, en fait, t'as prévu avant même que ton corps ait eu le temps de te dire, c'est grave ce qui se passe.
Ouais.
Donc, tu allais faire ton hémiplégie.
Oui.
C'est ça, tu l'as senti passer.
Je l'ai senti, je l'ai réellement senti.
Ton corps était en train de lâcher,
allait lâcher.
Et là, tu pars en voyage alors.
Je suis partie en voyage.
Ça a été le déclic. Ton corps, là,
Non. Donc, j'étais déjà dans le... Mais j'ai compris...
Oui, tu m'as dit que ça avait confirmé.
Je l'ai compris que j'étais dans le bon chemin quand ça n'a fait juste qu'apparaître et disparaître.
OK.
Donc... Si j'aurais eu la paralysie et que j'étais paralysée, là, j'étais...
C'était fini, ouais. Tu aurais perdu une année à l'hôpital.
J'aurais été bloquée.
Mm-hmm.
Mais heureusement que j'étais avec les bonnes personnes, à des bons endroits, peut-être dans le bon MLM.
Oui.
Ça m'a sauvée.
C'est les gens qui t'ont,
t'ont
entourée positivement.
Donc, je ne pensais pas à ma faillite. Je ne pensais
d'accord,
pas à mes problèmes. J'avais autre chose à faire. Mm-hmm.
Ici, tu confirmes ce qu'il faudrait faire pour pouvoir s'en sortir, pardon, c'est d'être toujours dans un environnement positif pour vite oublier nos échecs ou nos épreuves, pour vite tourner la page et pour vite s'en sortir.
Voilà.
Donc, notre corps, en fait, quand il est dans cet environnement positif, en fait, ton corps a voulu lâcher, puis il s'est dit, mais je suis dans un environnement super positif.
Voilà. Ça, il était soutenu, ce corps. Il était quand même...
Il était soutenu. Donc
il a retrouvé une force.
Il a retrouvé une force rapide.
Ouais.
Il a voulu...
Voilà.
Donc, tu as évité de peu la catastrophe.
J'ai eu de la chance.
Tu aurais pu passer une année allongée ou bloquée. D'accord, donc en 2017, avec tout ça, donc rapidement tu fais ta faillite et rapidement tu pars en voyage.
Oui, pour une formation, ça, c'est, pour un futur business dans ce MLM.
Ouais.
Donc c'était vraiment tac, 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 donc être avec les bonnes personnes parce qu'ils te disent voilà
ça, ce qu'il faut faire.
C'est l'endroit où tu dois aller.
On te coach, on t'explique.
Voilà, donc c'est, on suit et c'est un mouvement.
Ouais, ouais.
C'est un réseau, c'est un mouvement.
T'es dans une vague.
On est guidé.
Emmené, on est porté par une vague de positivité.
Exactement.
Mais quand on est en faillite, en général, Farah, on n'a pas d'argent.
Non.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment toi, tu fais pour te retrouver en Malaisie?
Malaisie, j'avais mon chômage.
Tu avais tes allocations de chômage puisque tu avais eu ton licenciement.
Chômage, ouais. Oui, que je n'avais pas reçu pendant 2-3 mois. Donc, ça m'a fait mon petit pécule, on va dire, pour
pouvoir partir.
Voyager. Et c'est grâce à ça. Hein. Donc, mon destin était de partir, donc les portes se sont ouvertes.
Mais une personne normale aurait culpabilisé, aurait eu des remords, parce que dépenser cet argent pour voyager alors qu'on est dans la peur, la crainte...
Moi, j'étais dans la solution de trouver une solution à long terme. Donc, ce voyage me permettait de faire un business par après. Donc, moi, c'était pour trouver une solution. Donc, ce n'était pas pour aller voyager, pour un business.
D'accord. Où est-ce que tu as trouvé cette force, j'ai envie de dire, de laisser ou de mettre tes enfants en deuxième priorité? Où est-ce que tu as trouvé cette force de comprendre que la Malaisie, ce sera dans ce cas-là une solution à long terme et mes enfants, je reviendrai mieux, plus fort?
Bah oui.
Mais comment c'est tu l'as compris? Parce que comment tu as compris ça?
Comme je t'ai dit, donc moi, cette formation allait me donner un job. Donc, un job pour nourrir mes enfants.
Oui.
Donc, je vais les laisser pendant une petite période pour revenir encore plus forte et continuer mon job.
Oui, mais dans ces cas-là, il y a des milliers de mamans qui vont être dans cette situation et on va leur dire, l'entourage, c'est ça que j'ai envie de savoir, ton entourage, la première chose qu'ils vont te dire, les tantes, les grand-mères, les copines vont te dire, mais t'es folle, qu'est-ce que tu fais, tous tes enfants, t'as pas honte, t'es pas une bonne maman. Donc, j'ai envie de savoir, j'ai envie de partager avec nos auditeurs comment toi, t'as surmonté les mauvais conseils, en tout cas les gens qui ne sont pas motivés. Quoi.
Je ne vais pas te cacher que je n'ai écouté personne. J'ai juste écouté mes enfants. J'ai ma fille, ma grande fille de 18 ans.
Ouais.
Je lui ai dit, voilà, je vais pour ça. Bon, elle m'en a voulu parce qu'elle ne comprenait pas. Voilà,
sûrement même.
Au lieu d'aller chercher un appartement, maman, pourquoi tu veux aller en Malaisie? Mais je lui ai expliqué que cette formation me permettra de pouvoir travailler après. Et si elle ne l'aura pas compris à ce moment-là, elle le comprendra plus tard. Mais moi, c'était dans mon besoin d'aller faire cette formation. Elle était en sécurité, ils étaient en sécurité, donc moi, j'étais rassurée. Donc, pour moi, c'était bon.
C'était bon parce que, on a oublié de dire un truc important, c'est qu'en fait, au moment, la vie a fait aussi que tu as voulu voyager, mais qu'au moment où tu devais voyager, tu t'es retrouvée entre-temps à la rue.
Oui.
Donc, ça veut dire qu'entre-temps, ça s'était encore pimenté.
Oui.
Donc,
oui,
tu t'es retrouvée à la rue alors que tu venais de décider de partir.
Oui.
Et tu as le courage de ne pas annuler ce voyage.
Oui. Ah oui, c'était une formation de 3 mois, chaque fois une semaine par mois. Et il fallait que je la fasse.
D'accord.
Donc, oui, j'étais dans la rue, j'ai encore été chez des amis, puis après dans une association pour femmes. Et j'ai dû mentir même à l'association.
Pour pouvoir partir en voyage.
Pour pouvoir aller encore à la dernière formation.
Pourquoi?
Le troisième mois, parce que pour eux, c'est incompréhensible.
Ouais, ouais. C'est si pas l'état d'esprit en Europe.
Si tu vas pour voyager en Malaisie...
C'est que tu vas bien.
Voilà. C'est que tu réfléchis très, très, très bien.
c'est très logique ce que tu dis parce qu'on dit qu'il ne faut pas attendre d'aller bien pour aller chez le coiffeur, mais il faut aller chez le coiffeur pour aller bien.
Ouais.
Donc, c'est vrai qu'en Europe, c'est un petit peu notre état d'esprit. Si tu voyages, si tu souris et si tu cherches des solutions, c'est que tu vas bien. Mmh. Tu ne vas pas si mal que ça. Par contre, on va t'aider si tu es au fond du trou. Et donc, comme tu n'avais pas l'air d'aller mal, les gens n'auraient pas accepté. D'accord. Et donc, tu as dû mentir.
Oui.
Et
j'ai dit que j'allais me ressourcer dans la famille.
Ce qui n'était pas faux. Ouais. Ressourcer, on s'arrête à là, c'était pas faux jusque-là. Parce que tu es partie te ressourcer, au final.
Tout à fait.
Ok, donc, la culpabilité, tu l'as traitée, ouais. Les remords, c'est fait, magnifique. Tu pars en voyage, tes enfants, et quand tu reviens, ça commence à rentrer tout doucement dans l'ordre,
dans
on va dire.
Voilà.
Et là, tu te prends un appartement et tu...
Là, je me reprends réellement en main. Je fais tout ce qu'il faut pour mes enfants, pour être en ordre.
D'accord. Tu m'as parlé d'un calcul intéressant quand on en avait parlé. Tu m'as dit, ce qui me permet aussi de ne pas culpabiliser, tu m'as dit, c'est qu'en fait, un voyage ne me coûtait pas plus cher que les séances de psychiatrie, les antidépresseurs payaient mes copines.
Quand je regarde des personnes qui sont en dépression, non seulement ils prennent des médicaments, ils sont suivis par un psychologue ou un psychiatre.
Accompagnés.
Ils sont dans un état lamentable, donc ils sont comme des loques.
Ouais.
Moi, franchement...
Quand tu as vu ça?
Je ne veux pas ça. Donc, moi, ma solution, elle était naturelle, du soleil, des gens positifs. C'était pour moi la meilleure des solutions.
Et en plus, ça donne un résultat parce qu'il ne faut pas oublier que les gens qui sont accompagnés par un psychiatre ou des antidépresseurs, ce sont des calmants et ça n'apporte aucune solution au final.
Aucune.
Aucune, d'accord.
On retarde le problème en fait.
D'accord. Et là, le fait de vouloir aller en voyage, tu m'as dit une chose, je t'ai dit que là, normalement, on penserait à ses enfants dans un environnement normal. Et là, je t'ai dit, mais qu'est-ce que tu voulais sauver finalement? Tu m'as dit, la seule chose qui me restait à sauver, c'était mon état d'esprit.
Moi-même.
Donc là, tu as compris qu'en fait, c'était...
Moi d'abord et puis les autres.
Que si tu ne te sauvais pas, en fait, tu ne pourrais pas aider tes enfants. C'était ça que tu m'avais expliqué.
Voilà. Si moi, tant que je ne me sentais pas forte pour combattre ça, je ne pouvais pas aider mes enfants, je ne pouvais pas être
les protéger.
Parce qu'eux, ils ont besoin de moi, donc je dois être forte. Je dois trouver les remèdes pour moi.
Donc quand même, ce que tu fais passer comme message, et c'est comme ça que les femmes doivent le prendre, c'est qu'en fait, les enfants ne sont pas du tout un fardeau ou un boulet, mais bien au contraire, c'est la raison de se lever. Parce que peut-être, je dis bien peut-être, que si tu n'avais pas eu ces trois enfants avec la même histoire, tu n'aurais pas trouvé la même force.
J'aurais peut-être pas fait le même parcours, tout simplement.
Parce que tu n'avais pas de raison de te battre.
Non.
Là, tu en avais trois quand même. Ouais. Trois bonnes raisons de te lever.
Et une toute petite quand même qui... Je ne pouvais pas.
Donc, regarder son enfant en fait dans les yeux. On va donner ça comme conseil. Mmh. Hein. Regarder son enfant dans les yeux et soit avoir le courage de lui dire « je pars en voyage pour me former », soit avoir le courage de lui dire « moi, je ne peux rien pour vous et votre vie est foutue ». C'est ça?
Oui, c'est ça. C'est ça. Est-ce que tu veux une maman qui cherche des solutions ou tu veux une maman qui se laisse aller, qui dit « oh, je ne peux pas, je sais pas ».
Qui va rester pleurer avec vous.
Ça ne va pas.
Mmh. D'accord. C'est beaucoup d'émotions, tout ça. On va parler un peu de l'avenir. Parce que là, je pense que tu as fait un tour dans les montagnes russes. Là, tu nous as fait... t'es passé partout. Tu t'es accroché. Ce que tu racontes comme ça, ça me fait vraiment penser, tu sais, à les gens qui font cette espèce de... pas de jet ski, mais qui sont sur la plage, là, qu'on tire, tu sais, comme les jet skis. Puis même quand ils tombent dans l'eau, mais ils s'accrochent, en fait, tu vois, ou dans le ski, quand ils font le remontée mécanique. Même quand on tombe, on s'accroche, et on finit par monter, quoi. On finit par s'en sortir.
Il ne faut pas lâcher.
Il ne faut pas lâcher, en fait. Il ne faut vraiment pas lâcher le truc. Alors, pour l'avenir,
on
va parler d'avenir. Ton SWEM, je vais l'expliquer, c'est SWEM, en anglais, Start with an End in Mind. On conseille toujours de démarrer sa vie ou ses projets avec cette fin dans son esprit. Donc la fin, la meilleure situation finale que tu imagines, toi, avec tes enfants, tu te vois où?
Je me vois
dans... Quand et comment?
Je me vois avec mes enfants, dans ma villa, à travailler de chez moi.
Un travail où je peux travailler de n'importe où. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il existe énormément de façons de gagner de l'argent en étant disponible pour ses enfants.
Voilà.
D'accord. Ton objectif financier pour d'ici 10 ans, qu'est-ce que tu prévois?
Je prévois de gagner 60 000 euros par mois.
60 000 euros par mois?
60 000 euros.
Et tu le dis avec un grand sourire, t'as pas honte?
Bien, j'ai appris qu'il faut voir grand et que voilà, c'est comme ça.
On est jaloux parce qu'on a l'impression que tu les as déjà. Tu le dis tellement avec beaucoup de conviction, tu vois, que je me dis... en fait, elle doit être à 55, 56 là et qu'elle y est presque. T'es pas du tout à ce chiffre-là,
non,
je suppose.
Pas du tout.
Rassure-nous, qu'est-ce que tu vas faire avec 60 000 euros par mois?
Oh, mais Moi, j'ai des projets quand même et j'aimerais bien aider les associations parce que quand je vois, c'est toutes des femmes qui
se
sont
battent.
là, qui, le seul manque qu'ils ont, c'est l'argent.
Tu m'as dit
moi,
que
j'ai
partout,
pas
c'était toujours
envie de créer
le
une autre association.
Ouais.
J'ai envie d'aider ces associations.
Ça, c'est vraiment très, très, très honorable parce que tu viens de pointer un sujet très important. C'est que toi, tu estimes aujourd'hui que ce n'est plus la peine de créer des associations. Il y en a assez.
Ouais.
Par contre, elles ont besoin d'argent.
Elles ont besoin d'argent.
Bah, c'est très logique. C'est beaucoup plus facile de créer une association que d'aller chercher de l'argent. Hein.
Voilà.
Ça, c'est, donc, on peut compter sur Farah. Avec ses subventions et ses subsides et tous ces dons qu'elle nous fera dans quelques
dans
années.
Dans quelques années.
Alors, c'est quoi ton objectif financier? On va y aller un petit peu plus mollo. D'ici 2 ans, puisque tu m'as dit que tu voulais vivre du trading. 3 000 euros par mois d'ici 2 ans.
Oui.
C'est correct, c'est bien, c'est tout à fait faisable avec ce que tu es en train de préparer. Et ça a l'air réalisable
puisque
tu bosses quand même pas mal.
Oui.
Alors, c'est quoi ton pop-up du moment? Pop-up, je le reprends un peu de ce qu'on voit dans notre ordinateur quand on a cette petite fenêtre qui vient nous déranger. Donc, c'est quoi ton pop-up du moment? C'est quoi le petit truc qui te dérange ou en tout cas qui t'empêche de dormir tranquillement?
Ben,
j'aimerais
bien voyager avec mes enfants, passer les vacances avec mes enfants.
Avec les trois, tu voudrais?
Trois enfants.
En fait, tu l'as jamais fait?
Non, ça fait des années que je ne l'ai pas fait.
D'accord. Et donc, ton rêve, et là, ton objectif, cette année ou l'année prochaine, c'est une fois partir tous ensemble.
Cette année.
Voilà, Farah, elle est motivée, c'est cette année. Magnifique. Alors, prochaine question. C'est est-ce que tu as une idée? On parle souvent aujourd'hui dans le développement personnel de mission de vie, de master plan, d'un plan de vie. Est-ce que toi, tu as déjà une idée finalement de dans quel métier tu finiras ta vie, ce pourquoi tu es faite?
Ben, pour le moment, je me vois dans le trading.
Trading, ça te plaît?
Formatrice,
c'est un peu comme de la bourse.
Ouais, formatrice de trading.
Ah, formatrice de trading. Pour les femmes. C'est les femmes qui ont besoin.
À court terme.
À court terme. Parce qu'à long terme, tu auras beaucoup d'argent à donner aux associations.
Oui, en fait, on peut avoir des petits objectifs dans le trading.
Ouais. Ah, ok.
Vraiment se faire un petit. Au lieu d'aller vendre des produits
pour
les gens qui ne savent pas vendre,
moi,
je vois une formation de trading pour gagner de l'argent.
D'accord. On fera certainement une fois un épisode spécial trading pour les gens qui veulent en savoir plus. C'est aussi une nouvelle tendance parce que ça répond, un peu comme le marketing de réseau, à cette exigence, ce besoin des femmes. Souvent de vouloir être disponible pour leurs enfants et de ne pas abandonner leurs rêves et leurs projets.
Voilà.
Donc quand on veut être une bonne maman mais qu'on veut gagner de l'argent,
il
y a des solutions. Voilà. C'est pas facile mais aujourd'hui il y a des solutions. Alors ton objectif est de 3 000 euros, c'est tout à fait honorable. Tu vas terminer dans le trading dans une belle villa avec quelques enfants.
Mes enfants.
Oui, avec tes enfants. Ah tu en veux pas d'autres, bien sûr. Non, on ne va pas t'en rajouter, ne t'inquiète pas. Elle a eu peur, Farah. Alors, c'est quoi ta conclusion de tout ce qui t'est arrivé, en fait? Si aujourd'hui, tu te dis, ça a toujours été finalement le même message qui m'est passé par la tête. C'est quoi ta conclusion de ce qui t'est arrivé?
Rien n'est une fatalité. Tout est possible.
Ça veut dire que rien n'est définitif, c'est ça?
Oui.
On peut toujours changer
même
la
si
situation.
Si on se casse la gueule 10 fois, la 11e, on peut réussir.
Parce que j'ai aimé quand tu as dit « rien n'est une fatalité », ce que moi, je l'ai ressenti comme « il n'y a rien qui est définitif
».
Donc, il n'y a que la mort, entre guillemets, qu'on peut pas revenir dessus.
C'est ça.
C'est ça. Il n'y a que la mort, on ne peut pas revenir dessus.
Exactement.
Mais chaque situation, voilà, la maison, elle est détruite, on prend le temps de reconstruire.
Voilà, exactement.
D'accord.
Tout simplement.
En tout cas, tu peux vraiment remercier cette femme de 90 ans qui a croisé ton chemin parce que je pense qu'elle t'a beaucoup aidée. Au niveau de ton mindset,
mon
de
mental.
Au niveau de ta façon de voir les choses, pardon.
Et ma positivité peut-être aussi.
Qui est devenue finalement naturelle. En fait, c'est ça aussi qui est bien dans ton histoire. C'est que comme tu l'as vécu et ressenti très petite, ça a été très vite un mécanisme de fonctionnement chez toi.
Mm-hmm.
Et en fait, le fait que tu puisses vivre par exemple une faillite et en même temps penser à gagner 60 000 euros, ben en fait, ce que disent les psychologues, c'est un état de flexibilité de l'esprit, du cerveau. Et en fait, l'objectif des gens qui font des formations, on devrait en fait atteindre ce niveau de flexibilité. C'est comme un enfant de 5 ans. Donc, prends-le comme un compliment. Mais donc, tu as l'esprit d'un enfant de 5 ans. Ça veut dire que tu es capable d'avoir une grosse, grosse mauvaise nouvelle et une demi-heure après, penser à un truc super positif et rigoler. Donc un enfant peut tomber, se cogner et pleurer, on lui présente une glace, et il a tout oublié
ses malheurs.
Donc franchement, bravo cette flexibilité, c'est elle en fait, pourquoi c'est important cette flexibilité, il faut que les gens comprennent, parce qu'en fait ça t'a évité de perdre du temps. Donc t'as pas perdu du temps à déprimer, t'as pas perdu du temps à te poser des questions, et t'as pas perdu du temps à te demander pourquoi ce qui était arrivé était arrivé. Ce qu'en général on aime bien faire pendant quelques mois, quelques années, et puis un jour... on se lève. Alors c'est quoi ton conseil à toutes les femmes qui nous auront entendues aujourd'hui ?
Il ne faut pas lâcher.
C'est tout.
C'est tout simplement. Il ne faut pas lâcher et puis toujours voir le bon côté des choses. Il y en a toujours.
Mais ça c'est facile à dire.
C'est facile à dire, mais il y a à chaque mauvais choix.
Oui.
Des fois on est obligé de passer par quelque chose de mauvais parce qu'au final, comme moi, j'ai eu un deuxième mariage malheureux.
Oui.
Mais qu'est-ce que j'en ressors de là ? J'ai eu
ta
une petite fille.
Ouais.
Qui aujourd'hui, je pourrais pas avoir ma vie sans.
Ouais.
Donc c'est pour moi c'est un cadeau.
Oui, malgré donc je remercie
ces
finalement.
Ces 3 ans ont été les pires années de ma vie.
Ouais. Mais en fait, ce que tu dis là, en fait, c'est un petit peu ce qu'on dit que quand on a une joie dans la vie, en fait, il faut toujours payer à la caisse, payer la facture.
Voilà.
Toi, ta facture, on va dire, ça a été ces 3 ans de souffrance, professionnelle et personnelle, la perte financière.
Ouais. Mais ça n'est rien.
Donc aujourd'hui, tu te dis, en fait, tout ce que j'ai perdu, 3 ans et mes finances, au final, qu'est-ce que j'en ressors une fille ? Donc ça valait le prix, c'est ça ?
Oui, franchement, et je peux le refaire quand je veux, le commerce, je peux. Ça, j'ai une certitude.
C'est vrai.
Mais voilà.
Un bébé, on ne peut pas l'avoir à n'importe quel moment. Ouais, voilà. C'est vrai. C'est vrai qu'un enfant nous fait tout oublier. Et la chance que tu as ici dans ce cas, c'est comme elle a 4 ans, tu as une belle raison de te battre encore une fois pour. Tu as au moins une bonne quinzaine d'années devant toi en regardant ta petite fille, en te disant je ne dois pas lâcher pour elle, c'est ça ?
Oui, voilà. J'ai des bons projets.
Alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir ? Du bonheur, beaucoup de trading, un nouveau papa pour tes enfants ?
Bon, le papa, je peux m'en passer, hein. Le trading, oui. Moi, je suis ouverte à toute proposition tant que ça me grandit.
Ça t'apporte du bonheur.
Ça me grandit et je suis entourée de mes enfants. Moi, c'est ça. Le
problème. Écoute, on te souhaite quand même un papa pour tes enfants parce qu'en général, la 3e, c'est la bonne. C'est pas grave, mais on reste ouvert. C'est toi qui as dit qu'il fallait être positif. Donc on reste ouvert, on te souhaite du bonheur,
merci
que ce
beaucoup.
Soit avec tes enfants ou,
merci.
Ou avec du trading. Enfin, quand tu auras tout, je pense que tu seras plus qu'heureuse et tu as déjà cet état de bonheur en toi. Donc,
merci.
Tu n'as rien à changer. On te remercie pour ton temps.
Merci
Sarah.
Merci à vous.
Avec plaisir, ça nous a fait plaisir d'écouter ton histoire. On espère que ça va motiver plus d'une femme aujourd'hui et qu'elles apprendront à voir les choses d'un autre œil avec les yeux de Farah.
Merci
Farah, à très bientôt.
À la prochaine.
Au revoir à tous, au plaisir, bye bye. Comme toutes les filles, j'imagine que j'ai voulu, quand j'étais petite, très tôt, devenir une maman. Avoir des enfants, pouvoir passer du temps avec eux et être très présente. Puis les années ont passé et s'est réveillé en moi un autre désir intense, celui de faire carrière, celui de devenir entrepreneuse, celui de lancer des projets. Et puis les années ont passé et est arrivé le fameux moment fatidique au croisement des chemins où on se retrouve maman mais qu'on est déjà entrepreneuse dans l'âme. Et là, c'est la question fatidique, le choix à faire. Qu'est-ce qui est prioritaire ? Un bébé ou un autre bébé ? Parce que quand on lance un projet, c'est comme ça qu'on le voit. C'est un bébé qu'on veut mettre sur pied. Et puis un jour, peut-être, que je devrais abandonner l'un des deux, mais ça me rendrait triste. Donc ce qui est sûr, c'est que je ne voudrais pas choisir.
Oui, c'est ça mon objectif dans la vie. C'est de ne pas devoir choisir entre les deux. Je veux être une maman et je veux être entrepreneur. Je veux être une maman entrepreneur. Chez MMG, on a compris que beaucoup de femmes se sont retrouvées dans la situation où elles étaient entrepreneurs et mamans. Beaucoup de femmes étaient mamans et ont dû être entrepreneurs pour être de bonnes mamans. Gérer une famille et gérer une entreprise ou un projet, c'est pas une mince affaire. C'est deux missions de vie en une seule vie. Pouvoir gérer les deux, c'est une question de temps. Car toutes ces femmes diront qu'elles sont en fait débordées. Et chez MMJ, on a compris qu'en fait, la base de tout, la réussite, c'est pouvoir gérer son temps. Car si on apprend à gérer son temps, on apprend à gérer son énergie. Si on apprend à gérer son énergie, on apprend à gérer ses émotions. Et si on apprend à gérer ses émotions, on apprend à être calme et à pouvoir réagir comme il faut dans chaque situation. Quand on est une maman, mais qu'à ce moment-là, on pense à un projet. Quand on est en entreprise, mais qu'à ce moment-là, on pense à un de ses enfants. Avoir son corps et son esprit au même endroit, c'est le défi que se lancent des millions de femmes chaque jour sur cette terre. Chez MMG, on ne veut pas se compliquer la vie. On va vous apprendre à gérer le temps. Une fois que vous serez maître du temps, vous serez maître de vous-même et vous pourrez enfin réaliser ce que tout le monde a toujours cru impossible. Bonjour à tous. Alors l'épisode d'aujourd'hui pour MMG, c'est moi et mes ambitions. Alors cet accompagnement qu'on propose pour les gens qui ont de l'ambition, c'est destiné à qui ? Alors que vous soyez aux études supérieures ou que vous soyez déjà en poste et que vous savez au fond de vous que ce n'est pas nécessairement la vie qui vous plaît et que vous savez que vous voulez terminer ailleurs. Donc, dans la plupart des cas, ce qui se passe, c'est que certainement, ce sont les symptômes de la fibre entrepreneuriale. Ça veut dire que vous savez que vous n'allez pas terminer salarié toute votre vie, ou en tout cas que vous voulez mener de front une vie de salarié, mais en même temps un projet à côté, où vous voulez faire plusieurs choses à la fois. Le fait d'avoir cette ambition pose un énorme problème, obstacle aujourd'hui dans notre société, puisqu'il n'y a pas vers qui se retourner. Alors les organismes publics proposent des formations pour tout type de métier et ce sont des métiers donc bien déterminés, puis on vous propose un poste en entreprise. Mais donc il n'y a aucune filière pour pouvoir apprendre l'entrepreneuriat et il n'y a pas d'autre solution, de toute façon c'est une réalité, que de l'apprendre sur le terrain. Le fait de rentrer dans un réseau, donc nous on propose en fait les trois choses qui manquent nécessairement pour réussir sa vie d'entrepreneur. Alors, les trois choses qu'il faut pour un entrepreneur, c'est sans négocier, non discutable, c'est un mentor. Alors ça peut être un mentor ou plusieurs mentors, ce sont des gens donc qui sont passés par là où vous voulez passer, qui ont déjà fait ce que vous voulez faire. Et donc, ce sont les meilleures personnes qui peuvent vous conseiller et vous faire gagner du temps dans vos décisions. Et qui vous permettent, évidemment, de prendre les bonnes décisions le plus rapidement possible. La deuxième chose qui est non négociable pour un entrepreneur, c'est un réseau de contacts. Car vraiment, dans la plupart des cas, les gens trouvent une solution à leurs problèmes via les contacts, via le bouche à oreille. C'est vraiment ce qui fonctionne bien, puisqu'il y a toujours ce facteur confiance et de recommandation qui est lié à cette information. La troisième chose qui est nécessaire et indispensable à un entrepreneur, c'est un environnement positif. Et donc, ce qui va le protéger de son environnement toxique. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par toxique ? Ça veut juste dire des personnes qui n'ont pas les mêmes objectifs que vous. Donc, toute personne qui n'a pas les mêmes objectifs que vous sera nécessairement toxique. Même si c'est une personne qui est gentille, qui est pleine de bienveillance et qui vous aime beaucoup, mais ce sera un élément toxique à votre à votre évolution. Donc, le fait de proposer cet accompagnement dans notre réseau, le réseau MMG, c'est des mentors que vous allez choisir naturellement, que vous allez rencontrer, un réseau de contacts, donc de recommandations, ça peut être dans plusieurs villes, dans plusieurs pays. Ça va très vite aujourd'hui avec les réseaux sociaux. On peut avoir le contact de quelqu'un à l'autre bout de la planète en moins d'une demi-heure. Et l'environnement toxique qui va donc vous être épargné par une fréquentation assez régulière de votre réseau chez MMG. Donc il faut savoir que ces trois choses-là, on ne peut les avoir que sur le terrain. Même s'il existe des livres et de la théorie, ça ne peut être praticable et efficace que sur le terrain. Donc ici, le réseau MMG se veut être un peu l'école de l'entrepreneur, l'académie de l'entrepreneur, pour pouvoir apprendre et développer les compétences et l'attitude qu'il faut. Donc voilà le programme qu'on propose à toute personne ambitieuse qui sait qu'elle n'a pas encore trouvé sa voie. Voilà, on espère que ça a été clair. On vous dit à très bientôt pour un prochain épisode pour MMG. Bonjour, aujourd'hui on va parler de la signification la plus parlante de MMG qui est I am my goals, soit je suis mes objectifs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire je suis mes objectifs? Alors, dans un premier temps, c'est je poursuis, je suis donc du verbe suivre, mes objectifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit apprendre à être concentré ou à penser à ce qu'on veut ou à ce qu'on désire atteindre comme objectif. Alors, apprendre à penser à être concentré tout en étant régulièrement dérangé. C'est là où intervient le défi. On peut être dérangé donc par notre routine quotidienne. Donc, il faut aller au travail, il faut aller à l'école, il faut faire les transports, les factures à payer, les interventions régulières qui ne nous plaisent pas nécessairement, les mauvaises nouvelles, les personnes toxiques de notre entourage et un peu les remarques qui nous blessent ou qui nous découragent. Donc apprendre à penser à ses objectifs ou à ce qu'on veut devenir et apprendre à être concentré tout en vivant avec tout ce qui nous dérange à côté, mais le but c'est d'apprendre à ne plus être dérangé. Alors, un exemple ici qui est tout à fait parlant, par rapport à notre vie. Donc, les gens sont assez déprimés ou déçus quand ils perdent le contrôle, quand ils perdent de vue leur objectif, quand ils n'arrivent pas à penser à ce qu'ils ont envie de faire parce qu'ils sont trop dérangés justement par leur quotidien. Et donc, on tombe régulièrement dans un état de découragement, de démotivation et même d'abandon. Voilà, on se lâche, on dit « c'est pas grave, je fais le boulot que je fais ». Ou bien je ne déménage pas, enfin je laisse tomber et j'accepte la situation dans laquelle je suis. Alors l'exemple le plus parlant dans lequel on fait exactement ce qu'il faut, c'est le permis de conduire. Alors quand vous voulez, à l'âge de 18 ans en général, rouler une voiture, vous passez un permis de conduire, vous passez un examen théorique, vous passez un examen pratique. Donc on vous donne un tas de règles à suivre, un tas d'instructions, un tas d'interdictions. Un tas de conseils à suivre et ensuite vous passez un permis théorique que vous pouvez rater plusieurs fois avant de l'avoir. Ensuite vous passez le pratique, vous roulez un certain nombre d'heures, donc vous pratiquez un certain nombre d'heures et au bout d'un certain temps, quand il y a un professeur, quand il y a un coach qui estime que vous êtes prêt, il vous invite à passer votre examen. Et c'est seulement ensuite que vous passez votre examen pratique et que vous avez votre permis, à condition que le pratique et le théorique soient dans une période limitée. En tout cas, dans certains pays. Donc, toute une préparation, toute une éducation, toute une formation, d'accord, pour pouvoir rouler en voiture. Ensuite, qu'est-ce qui se passe quand vous commencez à rouler en voiture? Avec l'habitude, il y a quelqu'un qui vous parle dans la voiture, il y a quelqu'un qui vous dérange, il y a les enfants qui pleurent, il y a quelqu'un qui vous double par la droite ou par la gauche. Enfin, il se passe un tas de dérangements, d'accord, et de personnes ou d'environnements toxiques, donc ce qui arrive un petit peu partout quand on roule voiture. Et donc ça vous arrive de sortir de votre trajectoire, de vous retrouver un petit peu trop à gauche, un petit peu trop à droite, vous ralentissez un petit peu trop, on vous demande d'accélérer, vous accélérez un peu trop, on vous rappelle la limite de vitesse. Donc vous n'êtes pas à 100% toujours dans le bon comportement, et pourtant, pour le plus simple du monde et pour le plus naturel du monde, bah, automatiquement, vous rectifiez le tir. Vous roulez trop doucement, bah, vous accélérez un petit peu. Si vous avez dépassé la limite de vitesse, que quelqu'un vous le rappelle gentiment, bah, vous ralentissez. Vous étiez occupé sur votre téléphone, vous avez un petit peu viré, sorti de votre trajectoire, vous revenez sur votre trajectoire. Et ça, vous le faites automatiquement. Et là, c'est magique parce que quand vous faites une erreur sur la route, bah, vous ne vous arrêtez pas à une station-service et vous commencez à pleurer, puis vous êtes déprimé, puis vous vous dites « c'est bon, moi je ne prends pas la route pendant au moins 10 ou 15 jours, je n'ai plus le moral parce que j'ai fait une erreur sur la route ». Non, ça peut choquer, bah, c'est normal, pourtant on le fait dans la vie. À chaque fois qu'on sort de notre trajectoire, à chaque fois qu'on fait ce qu'il ne faut pas faire, ou en tout cas à chaque fois qu'on oublie de faire ce qu'il faudrait faire, ben, on est démotivé, on est découragé, on s'arrête. On fait une pause dans notre vie, on reste en stand-by des semaines, des mois, pour certains, voire des années. Donc, déjà ici, si on pouvait déjà repenser à ce comportement qui est tout à fait naturel, on rectifie son tir à chaque fois, on revient sur la bonne route à chaque fois, et les écarts sont normaux et naturels, et c'est le défi qu'il faut relever. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, dans la vie, c'est pas facile, on est découragé, on est trop souvent dérangé et on a difficile à revenir sur notre trajectoire de la vie qu'on veut mener. Alors, comment faire pour apprendre à se concentrer? Je vais vous donner un petit exercice très, très simple avec lequel vous pourrez vous entraîner à la maison. Très très simple pour apprendre à vous concentrer sur une chose. Alors prenons l'exemple, vous allez prendre deux réveils, pour les réveils matin n'existent plus vraiment. Donc on va prendre par exemple deux téléphones, si vous avez deux téléphones à la maison, ou la télévision et un téléphone. Et donc vous faites sonner par exemple le téléphone, ou bien vous mettez une musique sur le téléphone et vous mettez une autre musique à la télévision. Donc vous les mettez en même temps. Et l'exercice, c'est de choisir un des deux. Donc, on va prendre, par exemple, la télévision. On va se concentrer sur la musique qui passe à la télé et on va se concentrer de sorte à essayer de ne l'entendre plus qu'elle. Et vous allez essayer de ne pas entendre la musique qui passe sur le téléphone. Ça va être très difficile, évidemment, mais c'est un exercice. Et donc, il faut s'entraîner à le faire. Vous faites ça pendant une minute, d'accord? Et puis après, c'est comme un jeu. Bah, vous pouvez le faire 10 fois le même jour, vous pouvez faire 3 fois chaque jour. Et vous vous entraînez, en fait. Et vous allez entraîner votre muscle, j'ai envie de dire, la partie du cerveau qui dirige la concentration. Et donc, vous allez apprendre à vous concentrer, d'accord? Et donc, avec un peu de pratique, vous allez déjà vous rendre compte que c'est quelque chose de possible. C'est possible d'avoir quelque chose qui nous dérange énormément et d'en faire abstraction. Donc voilà un petit exercice assez simple. Alors, on revient à notre explication de « je suis mes objectifs ». Donc, on va prendre la deuxième définition de « je suis ». Donc, on a expliqué « poursuivre et suivre mes objectifs ». Maintenant, pour pouvoir suivre ou poursuivre ses objectifs, alors il faut être ses objectifs. Donc, « je suis mes objectifs », le « S-U-S » ici veut dire « être »,« je suis ». Je suis, tu es tes objectifs. Alors, il faut être ses objectifs, il faut les vivre, les penser, et en fait, les respirer. C'est-à-dire que ça se voit que vous ne vivez que via vos objectifs. Je vous donne un exemple qui est très, très parlant, parce que ça nous arrive tous. On a une personne dans notre entourage, par exemple, qui a bien réussi dans la vie, qui est aisée, qui est riche, voilà, qui vit très bien, qui dépense beaucoup plus que nous dans tout et qui a une façon de penser la vie beaucoup plus facilement. Et ces personnes-là, malheureusement, elles ne sont pas toujours bien vues. Et donc, justement, pour les personnes toxiques autour d'elles, la remarque la plus facile qu'elles font, c'est « Oh, mais cette personne, je ne la supporte pas, elle court toujours après l'argent. » Voilà, elle est toujours en train de se définir, de définir de nouveaux objectifs. Elle est toujours en train de se fixer des nouvelles aventures. Elle ne pense qu'à l'argent, elle ne veut que ça. Voilà, là, on a défini cette personne par ses objectifs, mais nous, on l'a pris du côté négatif. D'accord ? Ce qui n'est pas, ici, ce n'est pas le plus grave. C'est juste qu'on a toujours un réflexe qui tend vers la partie, on va dire, négative de la chose ou de la personne. Maintenant, imaginez qu'on apprenne à faire ça, à définir une personne via son côté positif. Donc, cette même personne, on peut dire, oh, mais cette personne, vraiment, elle se casse la figure, elle fait des faillites. Et pourtant, à chaque fois, elle se relève et à chaque fois, elle relance un nouveau business. Ou à chaque fois, elle essaye de changer de boulot. Ou à chaque fois, elle essaye de trouver mieux. Donc, on pourrait la définir via le côté positif. Ce qui n'est pas facile parce qu'évidemment, ça veut dire aussi beaucoup de choses sur notre propre personne. Quand on n'apprécie pas beaucoup quelqu'un qui réussit ou qui est facilement devenu riche, ça nous rassure aussi. On se dit, il a triché, il a volé ou il travaille de façon illégale. Et donc, on se rassure de ne pas avancer. C'est pas grave, c'est un automatisme qu'on a dans le cerveau. L'automatisme, il est vers le côté négatif. Ici, tout l'exercice, c'est d'apprendre à travailler son esprit, donc ce muscle de la pensée, pour apprendre à avoir ces automatismes, mais vers le côté positif. Alors, définir une personne via son côté positif, je vais donner un exemple concret. Donc, je parle d'une jeune fille qui s'appelle Rita. C'est une maman seule qui a 3 enfants, elle a 2 grands adolescents, un qui ne vit pas avec elle, qui vit avec le papa, l'autre qui vit avec elle, et elle a une petite fille de 5 ou 6 ans. Alors, aujourd'hui, elle n'a pas de boulot. Elle reçoit des indemnités de chômage. Elle vit dans un petit studio avec ses enfants. Et donc, elle n'a pas de voiture. Ça veut dire qu'elle fait tout en transport. Et elle a quelques dettes qui lui restent de son passé, d'une ancienne expérience professionnelle. Elle avait lancé un business et ça va. Et voilà, il restait quelques dettes à payer. Donc, ça, c'est sa situation aujourd'hui. Pourtant, Rita se comporte d'une façon complètement différente de ce que je viens d'expliquer. Alors, Rita est une personne qui a envie d'apprendre de nouvelles compétences. C'est quelqu'un qui prend contact le plus rapidement possible avec des gens qui sont positifs ou qui sont plus avancés qu'elle au niveau des objectifs. Rita, c'est quelqu'un qui prépare chaque soir dans son petit studio ses 2 projets. Elle a un projet dans le domaine de l'alimentation parce qu'elle dit que c'est un domaine qui marche toujours. Et elle prépare aussi un autre projet au niveau du online, on va dire en ligne, pour pouvoir être disponible pour ses enfants et pour pouvoir marier sa vie de famille aujourd'hui avec ses enfants et son projet. Alors Rita, c'est quelqu'un qui suit ses objectifs dans le quotidien. Elle m'a parlé de ses objectifs et il y avait que des belles surprises. Elle m'a parlé d'une grande maison avec plusieurs chambres, un grand jardin. Je me souviens qu'elle avait bien insisté pour plusieurs places de parking et je lui avais dit pourquoi plusieurs. Elle me dit je voudrais vraiment que quand mes enfants et mon ami viennent chez moi, ils trouvent chacun leur place de parking. Donc elle avait vraiment une vision très claire de ce qu'elle voulait comme maison. Et puis on a parlé du salaire, quel salaire elle se fixait et elle m'a parlé d'un très gros montant. Donc pour une personne qui est sans emploi, elle m'a parlé d'environ 50 000 dollars, donc environ 50 000 euros par mois. Et donc voilà, là on a un choc. Voilà une personne qui est au chômage, qui n'a pas de boulot, qui vit dans un studio, qui se fixe comme objectif environ 50 000 dollars ou 50 000 euros par mois. La première réaction qu'on va se dire en tête, c'est « tu rêves ». Enfin, « tu rêves », c'est n'importe quoi. Comment tu peux passer d'un chômage, d'un sans boulot à 50 000 dollars. Alors, ici, la réponse qui fut quand même assez impressionnante de la part de Rita, c'est qu'elle m'a dit, oui, ça peut être, on en a discuté au cours d'une conversation et j'ai un petit peu joué l'avocat du diable et je lui ai dit, 50 000 dollars ou 50 000 euros, je trouve que c'est un petit peu fort. Même moi, je n'y avais pas pensé. Et alors, elle a commencé à sourire et elle m'a dit, oui, mais c'est impossible peut-être dans 6 mois ou dans 1 an, mais d'ici 5 ans, voilà, je sais que j'ai à peu près 1600 jours devant moi et c'est jouable si je divise cet objectif. Ce rêve plutôt, si je rends ce rêve, je le transforme en objectif. Donc, elle a vraiment compris que, pour qu'un rêve puisse un jour être réel, donc il doit en fait se définir en plusieurs étapes, et donc ça devient un plan avec un objectif, et puis des sous-objectifs, des sous-étapes, et des toutes petites étapes à suivre chaque jour, voilà, des micro-étapes. Mais voilà, si on se donne 5 ans, ça fait 1600 jours, et qu'on prépare un plan et qu'on le divise en autant d'étapes. Et c'est tout à fait logique ce qu'elle a dit, parce que c'est vraiment comme ça qu'on arrive à rendre la chose beaucoup plus réaliste. Et donc, ça devient beaucoup plus logique. Son rêve, elle l'a transformé en un objectif. Alors, pour pouvoir transformer un rêve en un objectif, il faut le rendre smart. C'est une astuce assez connue et répandue aujourd'hui. Vous pouvez trouver ça partout en faisant des recherches sur le net. Rendre un objectif smart, c'est vraiment le découper en petites tranches pour pouvoir après, j'ai envie de dire, le manger. Alors, ça veut dire quoi smart ? Rendre un objectif smart, c'est vraiment le définir. Alors, le S, ça veut dire spécifique. Je vais donner un exemple tout de suite. Le S, ça veut dire spécifique. Le M, ça veut dire mesurable. Le A, c'est atteignable. Le R, c'est réalisable. Et le T, c'est limité dans le temps. Alors, ça veut dire quoi spécifique ? On va prendre l'exemple d'une maison. Donc, mon rêve, c'est d'avoir une grande villa, par exemple. Donc, on va reprendre l'exemple de Rita. Donc, son rêve, c'était d'avoir une grande villa. C'était une grande villa avec 5 chambres, un bureau, un jardin, une terrasse. Elle m'avait dit des panneaux solaires pour récupérer l'énergie, les 4-5 places de parking. Voilà, c'est spécifique. Et donc, on va vraiment le détailler. J'aimerais avoir des pierres brunes, la façade, une maison de 4 façades et pas 3. Donc, vraiment spécifique, le spécifier en détail comme si on passait une commande. Comme quand on commande un produit sur mesure ou quand on commande parfois une voiture. Alors, mesurable, ça veut dire quoi ? Mesurable, ça peut être le prix, d'accord ? Ça peut être la surface, ici. Donc, on doit le mesurer. Alors, ça peut être le prix, ça peut être la taille, ça peut être la longueur, tout ce qui est en chiffres. Voilà, il faut vraiment que ce soit défini dans notre tête, qu'on puisse l'imaginer. Alors, atteignable, ça veut dire quelque chose qu'on peut atteindre. Ici, j'ai envie de dire que c'est... C'est un mélange entre le réalisable et le limité dans le temps. Atteignable, c'est quand même quelque chose d'assez subjectif, parce que si aujourd'hui, moi, mon esprit n'accepte pas que je me fixe l'objectif de gagner, par exemple, 50 000 dollars, je le reconnais en moi-même, je n'en vois pas l'utilité, peut-être que je me suis fixé que 10 000 dollars, d'accord, ou 5 000 dollars, tout simplement, pour l'instant. Donc, c'est quelque chose d'assez personnel. Alors, réalisable, ça veut dire que c'est possible dans la réalité, d'accord ? Possible dans la réalité. Donc, ça veut pas dire que ça doit être fait tout de suite, d'accord ? Donc, ici, et le T, c'est limité dans le temps. Donc, par exemple, dans 5 ans. Donc, si on marie un petit peu les 5 lettres, c'est un tout. Ça veut dire quelqu'un qui vous dit « je veux cette maison ». D'autant de surface et avec ce prix-là dans 10 ans, et je divise le prix en 10 années et puis en 12 mois, ça fait 120 mois, et je sais qu'il va me falloir autant gagner autant par mois. Ça, c'est possible pour la personne en elle-même, d'accord ? Il y a que la personne qui peut le juger, ok ? Maintenant, limité dans le temps, ça veut juste dire mettre une date limite. Réalisable, c'est que si quelqu'un vous dit je veux être ministre par exemple, mais dans 6 mois, voilà, ça c'est pas réalisable, c'est mathématique, mais c'est possible dans 5 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a des élections qui arrivent ici, puis cela. Donc c'est vraiment ça. La maison, ici dans le cas de la maison, réalisable, c'est comme si elle disait une grande villa avec tous les détails, mesurable de, je sais pas, 1000 mètres carrés. Atteignable, oui, je pense que c'est possible pour moi dans tel pays ou dans telle ville ou dans telle région. Est-ce que c'est réalisable ? Oui, c'est réalisable parce que, on vient avec le dernier élément, parce que je la veux dans 10 ans. Donc, c'est un tout en fait, d'accord ? Et ça doit vraiment être clair dans la tête de la personne qui se fixe les objectifs. Donc, on revient à l'histoire de Rita. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait un plan sur 5 ans. Et en fait, il y a un grand coach américain qui a vraiment expliqué ça. Il a dit les gens, 99% de la population, surestiment ce qu'ils pourraient faire en une vie. Donc plus tard, je ferai, quand je serai âgé, je ferai, quand je me marierai, je ferai. Donc on surestime, mais tout le monde sous-estime ce qu'il pourrait faire en 3 ans. D'accord ? Donc il n'y a jamais personne qui fait des plans sur 3 ans, sur 5 ans. Tout le monde fait des plans sur toute une vie. Et donc comme ce n'est pas limité dans le temps, bah, évidemment, on pense toujours qu'on a le temps. D'accord ? Et donc ça, c'est vraiment le piège du un jour. C'est toute la différence entre un jour et non dans 5 ans. D'accord ? Dans 5 ans, déjà, ça fait peur parce qu'on se dit, voilà, le délai est posé. Alors, on en revient à cet objectif qui est fixé donc, sur une période limitée. Et donc, cette personne, voilà, Rita, elle se définit finalement par ses objectifs. Oui, aujourd'hui, je prends le bus, mais demain, j'aurai une voiture. Oui, aujourd'hui, je suis dans un studio, mais demain, j'aurai ma maison où je vais avoir déjà un appartement d'ici là. Oui, aujourd'hui, je me limite dans mes consommations quotidiennes, mais demain, ça sera restaurant et vacances et voyages dès que j'en aurai envie. Donc, le fait que Rita ait réussi à tellement penser et à préparer son esprit à ce qu'elle va atteindre ou vivre un jour, qu'elle, en fait, elle ne pense plus, ne ressent plus la situation dans laquelle elle est aujourd'hui. L'exemple simple, c'est par exemple si vous êtes en travaux et que vous faites de la peinture à la maison, vous êtes tout sale, vous avez de la peinture sur les mains, dans les yeux, dans les cheveux et votre tunique est toute sale, vous sortez à l'extérieur, vous n'êtes pas gêné parce que dans votre tête c'est très clair. Je suis en train de faire des travaux à la maison, ça se voit, tout le monde le sait, je vais rentrer chez moi, je vais prendre une douche. Donc comme c'est très clair dans votre tête, vous n'allez pas aller chez l'épicier et vous excuser parce que vos vêtements sont pleins de peinture de toutes les couleurs. Donc si c'est clair dans votre tête, en fait il n'y a plus de culpabilité. Et donc vous avancez. D'ailleurs, il y a un post qu'on a fait, un podcast spécial sur la culpabilité que vous pouvez retrouver aussi sur la chaîne. Alors, on revient à Rita. Donc, finalement, alors, c'est qui cette Rita ? Donc, elle se prépare à atteindre cette vie. Donc, elle se comporte comme une gagnante. Elle est super positive. C'est une battante. Elle inspire et elle donne envie. Ça veut dire que même les gens qui sont positifs, ils ont envie d'être avec elle. Donc finalement, elle attire les bonnes personnes et elle va attirer des gens qui ont les mêmes objectifs qu'elle ou des objectifs plus poussés ou plus détaillés ou plus définis. Donc elle va finir par se retrouver entourée des bonnes personnes. Et pourquoi c'est important d'être entourée par les bonnes personnes ? Tout simplement parce que la science dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente. Au niveau de la pensée, au niveau de l'argent, au niveau des émotions, au niveau du courage, au niveau de la peur, au niveau de tout. Donc on est vraiment la moyenne. Si vous fréquentez 5 personnes qui n'ont jamais peur de rien, vous allez apprendre à ne pas avoir peur. Si vous fréquentez 5 personnes qui gagnent par exemple 4 000 $, 4 000 €, et vous êtes à 2 000, vous allez finir par augmenter ce montant d'une façon ou d'une autre. On l'expliquera dans un autre podcast. Donc, elle est gagnante, Rita, parce qu'elle porte un message d'espoir. Elle est heureuse, elle est motivée, elle et ses enfants. Donc, déjà, elle est gagnante au sein de sa famille et elle est gagnante au niveau professionnel parce qu'elle va attirer les bonnes personnes pour pouvoir avancer. Et donc, ce qui est magnifique dans tout ça, c'est qu'elle va commencer, en fait, à gagner du temps. Elle va gagner énormément de temps. Elle va gagner beaucoup de temps parce qu'elle va attirer les bonnes personnes. Donc, Rita passe d'un niveau de, on va dire, 1 000 $, par exemple, 1 000 € à 50 000 $. Comment est-ce que c'est possible de pouvoir penser les deux en même temps ? Et c'est ça qui choque monsieur et madame tout le monde. Qu'on se dit, enfin, comment tu fais pour passer d'un sans boulot à une grande villa 5 chambres ? Et en fait, il y a un scientifique qui expliquait que les enfants peuvent passer justement d'une grosse colère, par exemple, à une joie en l'espace de quelques secondes. Et donc, il expliquait que l'enfant, par exemple, de 5 ans, avait une certaine flexibilité dans son cerveau qui lui permettait de passer d'un état émotionnel à un autre et de passer d'une idée complètement noire à une idée complètement blanche. Et donc, Rita, c'est un petit peu l'état d'esprit dans lequel aujourd'hui elle est. Elle a réussi à atteindre ce niveau de flexibilité dans son cerveau. Comment est-ce qu'elle a fait ? Elle a fait énormément de travail sur elle, elle a été accompagnée, elle a fait énormément de formations. Et en fait, pour pouvoir être flexible, être flexible, c'est le contraire de paralysé. Et en fait, on est paralysé par les peurs, par les on-dit, par ne fais pas ceci, tu risques cela, tout ça. Donc, je résume parce qu'on fera un autre podcast sur la peur, mais c'est quelqu'un qui apprend à avoir de moins en moins peur et de moins en moins s'inquiéter de ce que les autres pensent. Et donc, par conséquence, qu'est-ce qui se passe? On devient flexible. Donc, c'est vraiment des couches, on va dire, de peur qu'on retire de la tête et des couches de stress, d'angoisse, de frustration qui se retirent. Et donc, plus elles se retirent et plus on devient léger, donc flexible. Et donc, c'est ça qui permet aujourd'hui à Rita de passer du bus à « je vais acheter une grosse voiture ». Un gros engin pour moi et mes enfants. C'est possible. Ça choque pas son esprit, elle a travaillé son esprit. Donc ça se travaille, ce muscle, cette flexibilité. D'accord ? Et donc ça ne vient pas tout seul. Alors, comment on arrive au final à ce stade de « je suis mes objectifs » ? Au final, ça devient, avec du temps en fait, je pense mon objectif, je le vis, je me lève avec, je m'endors avec, et donc j'apprends à y penser. Donc, à chaque fois que vous allez penser à vos objectifs, c'est comme si vous étiez sur la bonne route, sur l'autoroute. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vous dérange, c'est comme si vous étiez sorti de la route. Comme si vous avez écrit un message sur le téléphone ou que quelqu'un vous a dérangé, les enfants derrière dans la voiture ou votre conjoint. Donc dites-vous qu'en fait, c'est normal de sortir de la route. Le tout, c'est de revenir à chaque fois, de revenir à chaque fois. Et avec le temps, en fait, ben, on finit par tenir la route. Donc, je suis mes objectifs. C'est j'apprends à rester sur la bonne voie, d'accord, sans dévier. Donc si je suis mes objectifs, je suis cette femme qui veut acheter cette grande maison, d'accord, ça me définit comme une personne qui est complètement différente de la personne qui va se définir, comme tout le monde le fait, par ses échecs, par ce qu'on a raté, par ce qu'on a essayé. Donc vous n'êtes pas vos échecs, vous n'êtes pas ce que vous avez essayé, vous n'êtes pas ce que les autres vous disent de vous, vous n'êtes pas ce que votre famille pense de vous, vous n'êtes pas les échecs ou les erreurs de votre conjoint, vous n'êtes pas vos parents, vous n'êtes pas vos enfants, vous n'êtes pas vos copines, vous n'êtes pas votre meilleur ami, vous n'êtes pas votre meilleur ami. Donc vous êtes vous, en dehors de tout ce que vous faites. Déjà ici, il faut faire la différence entre être et faire. Donc vous êtes une personne, mais vous n'êtes pas ce que vous faites. D'accord ? Donc, par exemple, vos enfants, vous avez deux enfants, d'accord ? Vous leur avez donné la même éducation, la même qualité de vie, le même nombre de temps et j'ai envie de dire d'argent que vous avez consacré à ces deux enfants. Et pourtant, il y en aura un qui va faire peut-être des hautes études et qui va finir à la grande fierté de tout le monde comme un grand cadre dans une société. Et l'autre qui va vouloir faire un métier simple, manuel ou ne pas travailler du tout. Est-ce que c'est votre faute? Non, vous n'en êtes pas responsable. Votre responsabilité s'arrête à la fin de votre travail, de votre mission. Le résultat, ce n'est pas vous. On ne peut pas parler de ça aujourd'hui, mais il y a 1 million de facteurs qui font que le résultat est bon ou mauvais. D'accord ? Les enfants, on peut aussi dire que c'est comme une recette. Quand vous essayez une recette, vous la réussissez pas, du premier coup. Vous allez devoir vous entraîner. Bon, avec le gâteau ou avec la recette, l'avantage, c'est qu'on peut le refaire plusieurs fois. Ce n'est pas comme pour les enfants. Mais la cuisine, vous allez essayer plusieurs fois. Le jour où vous y arrivez, vous allez être fier de vous. Mais tant que vous n'arrivez pas, c'est pas votre responsabilité. Dites-vous juste, et de toute façon, ça c'est valable pour les enfants, que quand vous n'avez pas réussi quelque chose, c'est certainement à 99%, je vais dire, pour me protéger, pour pas dire 100%, que vous n'aviez pas eu toutes les informations. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Vous n'étiez pas au courant de tout. Aujourd'hui, on découvre 1 million de choses sur la santé, comment se soigner, 1 million de choses sur le cerveau, 1 million de choses sur comment réussir son couple, 1 million d'informations, comment gérer son argent. Donc, tout ça, on ne le savait pas. D'accord ? La science commence à sortir des informations, il y a de plus en plus de chercheurs. Donc, tout ce que vous n'avez pas réussi, c'est simplement parce que vous n'étiez pas assez au courant. D'accord ? Vous n'aviez pas toutes les informations. C'est aussi simple que ça. Donc, vous n'êtes pas responsable des résultats. Vous avez le droit d'être triste et déçu. Ça, c'est votre droit. Mais culpabilité, pas autorisée, parce que ça veut dire que vous estimez être la seule personne maître de la situation, alors qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en compte. Donc, à partir du moment où c'est un travail d'équipe avec vos enfants, avec la vie, avec les professeurs, avec d'autres choses, d'accord, beaucoup moins visibles, vous n'êtes pas responsable du résultat. Donc, vous n'êtes pas vos échecs. J'ai raté hier mon gâteau. mais je suis quand même une personne bien. Hier, j'ai fait un accident, pourtant je roule super bien. Hier, je me suis disputée avec une dame dans la rue, elle m'a insultée. Pourtant, moi, je lui ai rien dit, je me suis excusée. Donc, c'est vraiment apprendre à mettre les limites entre ce que je suis et ce que je fais. Faire la frontière entre ce que je fais et le résultat, d'accord ? Il y a une frontière. Et ne plus mettre de frontière entre ce que je veux faire plus tard. D'accord ? Quand cette femme va me rentrer dedans dans un accident de voiture dans la route, je suis peut-être tellement dans mes pensées, d'accord, de ma grande maison avec les 5 chambres ou avec mes super vacances, par exemple, avec ma famille. Je suis dans mes pensées, je suis concentrée. Donc, je ne vais pas être suffisamment stressée pour m'énerver sur cette dame. Je ne vais pas être suffisamment stressée ou angoissée ou frustrée pour que cet accident porte atteinte à mon à ma journée ou au tout le reste de la semaine. Je suis comme chez beaucoup de personnes. Donc, il va m'impacter très peu de minutes ou très peu d'heures. Alors, donc, ça sert à quoi de vouloir sentir ses objectifs? Ça sert à quoi, en fait, d'être ses objectifs? Alors, là, je reviens sur un exemple vécu. J'ai eu un jour un groupe d'étudiants à qui j'ai donné cours. Et donc, on avait un programme d'un mois de développement personnel. C'était plutôt de l'insertion professionnelle. Mais voilà, le premier jour, j'ai commencé directement par un exercice simple, justement après quelques recherches sur la programmation neurolinguistique, sur la psychologie et sur la pédagogie. Donc, je leur ai fait faire un exercice très, très, très simple. On a commencé le premier jour. Je leur ai dit, voilà, vous fermez vos bouquins. On ne va pas commencer le programme ce matin. Et vous allez juste vous concentrer sur quel est votre objectif dans votre vie. Donc, comment vous vous imaginez le dernier stade de votre vie ? Aujourd'hui, vous avez 19-20 ans, ok, ça, c'est pas important. Vous n'avez pas de boulot, c'est pas important. Pardon. Toutes les étapes par lesquelles vous allez passer, c'est pas important. Je veux la destination finale. Donc, quel est le poste que vous rêvez d'occuper, d'accord, pour le reste de votre vie. Et donc, voilà, je leur ai laissé à peu près 2 heures pour réfléchir, parce qu'on a dû quand même travailler dessus pour vraiment affiner. Et donc, j'avais un directeur d'entreprise, je sais pas moi, dans le domaine, il me dit des fruits. J'avais quelqu'un d'autre qui m'a dit, par exemple, moi, je voudrais être directeur des ressources humaines dans le domaine du charbon. Voilà, des trucs vraiment très, très, très précis. Et donc, au bout de ces 2 heures, ils avaient vraiment l'image clair de ce qu'ils voulaient devenir. Et donc, je leur ai dit, vous allez l'écrire sur une feuille, une grande feuille A4 que vous allez plier en deux, et vous allez la mettre devant vous comme si on était à une assemblée, à une conférence, comme quand les présidents ou les directeurs d'entreprise ont un petit panneau devant eux avec le nom, prénom et le poste qu'ils occupent. Donc, quand c'est les organismes internationaux, on le voit à la télévision, on va voir, Madame X, directrice du Centre international de financement. Monsieur Y, directeur général de l'Organisation de la Santé. Voilà. Et donc, j'aurais dit, voilà, vous mettez nom, prénom et le titre de votre objectif final. Et donc, le fait qu'ils le fassent, c'était déjà très impressionnant. Je les ai vus sourire, j'ai vu des yeux s'écarquiller, j'ai vu des gens qui ont commencé à être soulagés, comme si on avait réglé tous les problèmes de leur vie. Et ils ont vu ce papier avec beaucoup, beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour. Et on dirait qu'ils avaient déjà changé. Et donc, je leur ai dit, voilà, vous gardez vos papiers. Et pour moi, à partir d'aujourd'hui, moi, je vous vois avec ces étiquettes-là. Donc, maintenant, on va bosser pour préparer ce que vous avez marqué sur vos petits papiers. Et donc, ils étaient tout enchantés. Parce qu'en fait, c'est comme quand on dit à quelqu'un, viens, on va aller acheter ton cadeau de Noël. Donc, c'est vraiment, on va aller chercher ta surprise, on va la préparer. Et donc, ces jeunes ont pris vraiment ce papier avec beaucoup d'attention et ils se sont rendus compte de la force et du pouvoir magique d'écrire. Donc, on en revient au thème des listes. Il y a un autre podcast sur les listes. Donc, ça, c'est une liste qu'ils ont fait au départ avec tout ce qu'ils aimaient, tout ce qu'ils voulaient. Et au bout de 2 heures, on en est ressorti avec un titre clair et ça a changé leur état d'esprit. Et en un mois, j'avais des étudiants qui étaient sans boulot depuis 3 ans et qui repartaient avec des objectifs qui moi-même m'ont fait peur au bout d'un mois. Je lui dis, t'es sûre que c'est possible ? Il me dit, ah oui, madame, avec tout ce que vous nous avez expliqué, maintenant je suis sûre que c'est possible. Je dis, écoute, tant mieux. Si toi tu en es convaincu, voilà. C'est clair, c'est écrit sur une feuille. Tu sais maintenant comment le faire. Maintenant, c'est toi et ta conscience qui va te pousser à y aller. Donc, On a vu l'effet d'écrire sur un papier et de vivre et de commencer à penser à son objectif et qui on est. Donc, Rita, bah, c'est ce qu'elle a en fait. Elle a, comme c'est jeune, hein, elle a commencé à écrire sur des papiers, elle a augmenté sa confiance en elle, elle commence à sourire, enfin, elle sourit tout le temps, elle a de l'espoir. Et donc, tout ça, ce sont des liants. Ça lui permet vraiment d'avoir cette petite boule d'énergie pour atteindre ses objectifs au quotidien. Je répète, c'est pas automatique, ça se travaille, ça prend du temps, mais on finit par y arriver. C'est vraiment comme des abdos. Je pense que au bout de quelques mois, avec un peu d'exercice tous les jours, on devient quelqu'un qui pratique les abdos, voilà, de façon, on va dire, automatique. Et c'est ça le but en fait, c'est d'arriver à ce stade où ça devient automatique. Donc, il faut prendre le temps que son cerveau, que son subconscient se prépare à tout ça. C'est, dans toute cette histoire, c'est le subconscient le plus important, c'est lui qui doit se préparer à toute cette histoire de ce que vous voulez vivre plus tard. Une fois que votre cerveau va arriver à ce niveau, comme cet enfant de 5 ans, cet état de flexibilité, une fois que déjà dans votre tête c'est possible de gagner autant, c'est possible de déménager, c'est possible de changer de boulot, c'est possible de se marier, une fois que votre esprit l'a accepté, vous avez fait 99% du boulot. Le reste, c'est juste du côté du matériel, j'ai envie de dire, de la pratique. Et en fait, la preuve qu'il faut vraiment préparer son esprit à une situation qui change, bah, c'est les gagnants du loto. Il faut savoir que les gens qui gagnent au loto, souvent, d'ailleurs, il y a une cellule psychologique qui existe pour les gagnants du loto. Donc oui, il y a beaucoup de gens qui gagnent au loto qui finissent par faire une dépression. Donc, une dépression, c'est un petit peu aussi, comme je résume, le système qui disjoncte. Parce qu'en fait, on n'était pas préparé à vivre cette situation. Et donc la plupart d'entre eux bah, disent tout simplement « En fait, je ne savais pas comment gérer la situation parce que je n'y avais jamais pensé, parce que je ne m'y attendais pas. » Et donc, voilà, on vous donne 300 millions de dollars du jour au lendemain, mais toute votre vie change, ou 300 millions d'euros. C'est vos amis, c'est votre comportement, c'est comment les gens se comportent avec vous, vous ne savez plus à qui parler, vous ne savez plus quoi acheter, vous avez peur de ce qu'on pense de vous. Donc, cette fragilité de l'esprit est restée là. Votre situation a changé, vous ne pouvez pas supporter la situation et donc ça se finit mal. Et donc il y a beaucoup de gagnants du loto qui ont perdu tout leur argent très rapidement et qui sont revenus à leur situation initiale. Donc c'est la preuve qu'il faut vraiment préparer son subconscient à la nouvelle situation qu'on a envie de vivre. Donc on fera un podcast spécial sur le pouvoir du subconscient, ou les pouvoirs, pardon, du subconscient, parce que c'est lui le grand patron. Si lui il dit OK pour quelque chose, ben après, il suffit juste aux petites secrétaires dans notre cerveau à passer à l'action. Donc voilà, l'esprit, le cerveau, c'est vraiment un muscle qu'il faut entraîner. Et au bout de quelques jours, c'est vraiment quelques jours, au bout d'un mois, on commence déjà à avoir des automatismes. Des choses qu'on faisait avant volontairement commencent à devenir automatiques. Donc c'est très 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 rapide, mais il faut juste s'y tenir. Il faut s'y tenir un petit mois tous les jours à essayer de faire ça au quotidien. Donc on est revenu à je suis mes objectifs. Donc on va clôturer avec finalement, au final, comment je fais pour commencer à vivre mes objectifs ou à les ressentir ou à les sentir. Donc eh ben, c'est me dire qu'est-ce que je veux devenir plus tard, ok, en parler avec une personne positive qui va m'en encourager, mais surtout me le répéter régulièrement. Me le répéter, même à moi-même. C'est-à-dire que vous vous le répétez à vous-même. Vous n'avez pas besoin de le chanter, de le crier sur les toits. Vous le répétez à vous-même. D'accord ? Donc, je veux être une conférencière, par exemple. Je n'y crois pas du tout, parce qu'aujourd'hui, je travaille dans, par exemple, dans une boulangerie. Donc, comment passer de boulangère à conférencière ou écrivain ? Un truc, mon cerveau n'arrive pas à l'accepter. Mais il va falloir que je le répète tous les jours. Donc voilà, oui, je suis boulangère aujourd'hui. Ça, c'est mes mains qui vont au boulot et mes pieds. Mais tous les jours, je vais devenir écrivain. Je suis écrivain, je le suis. J'écris des petits textes, j'écris des blagues, j'écris, voilà. Il suffit d'écrire pour devenir écrivain et simplifier la chose. Donc, le fait de le répéter, ça finit par rentrer dans la tête. Ça, c'est confirmé, c'est la science qui le dit, d'accord ? Et quand la science le dit, ben la réalité aussi le prouve, parce qu'on pourra par la suite dans d'autres podcasts vous montrer des exemples vivants. Cet exemple du conditionnement du subconscient, j'en ai fait l'expérience. Je voulais voir justement est-ce que c'est vrai que ça marche après l'avoir lu dans un bouquin. Et donc, j'avais le fils d'une amie. Et quand j'allais sonner en fait chez elle, ben voilà, j'ai voulu faire l'expérience. Et donc, à chaque fois que je sonnais, au lieu de lui dire c'est la voisine d'en face ou c'est la copine de ta maman, ou tout simplement lui dire c'est Tati, je lui disais c'est la plus belle du monde. Et puis il me dit c'est qui ? Je dis mais oui, Tati, la fille qui habite en face. Et j'ai commencé à répéter ça, donc j'allais souvent chez elle sonner. Et donc, je répétais, bonjour, c'est qui ? C'est la plus belle du monde. Et puis, il m'a répété ça pendant plusieurs jours. À l'époque, je n'ai pas tenu compte de combien de jours, mais ça a peut-être pris un ou deux mois. Et en fait, ce qui s'est passé un jour, donc là, j'ai eu la grande surprise de cette expérience que j'ai lue dans les bouquins et que j'ai pu expérimenter dans la réalité, que c'était vrai, à mon grand amusement. Un jour, donc je lui disais tout le temps c'est la plus belle, il me dit c'est qui. Un jour, je sonne et je lui dis, il me dit c'est qui. Je dis mais c'est la plus belle du monde. Et il me dit ah oui, c'est Tati. Et donc ça veut dire que finalement son cerveau avait réussi à associer tout simplement Tati, donc moi la personne, égale Tati, égale la plus belle fille du monde ou la plus belle du monde. Et donc c'était très marrant parce que je me suis dit waouh, ça marche, en fait c'est vrai. Et donc ce jeune homme m'a dit aujourd'hui au bout de 15 ans, il m'a dit tu sais qu'aujourd'hui quand j'entends même la phrase la plus belle du monde, bah, automatiquement je pense à toi, parce qu'en fait ce qui s'est passé dans son cerveau, c'est qu'il y a une association d'idées, et donc cette association elle est définitive et à vie. Donc une fois qu'on associe deux choses d'accord ensemble, elles sont associées à vie. D'ailleurs, on peut retrouver ça dans l'expérience de la Madeleine de Proust, d'accord ? Quand on ressent à un moment donné quelque chose dans son enfance, qu'on l'associe à une odeur, ou à une musique, ou à une chanson, ou à un mot, ça reste à vie. Donc, vraiment, le subconscient a un pouvoir énorme. Donc, je vais terminer ce podcast, qui a été assez long aujourd'hui, mais je pense qu'il était très utile. C'est vraiment... Vous prenez du temps à essayer de trouver le métier que vous voulez faire plus tard, même si ce n'est pas encore très précis, mais vous le faites en large, d'accord ? Je veux être indépendant, je veux être entrepreneur, je veux ouvrir ma boutique de confiture. Juste trouver cette phrase et le répéter. Et vous vous le dites à vous tous les jours. Et au bout d'un certain moment, le subconscient l'a accepté et vous avez fait le plus gros du travail. Après l'accompagnement ou les formations que vous pouvez suivre, ça sera juste la mise en pratique dans la réalité. Voilà, ben je vous souhaite d'être vos objectifs et de les sentir et de les vivre au quotidien. J'espère que cet épisode vous a plu. Ben, à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!